tout ça. Quoi.
Et l'ambiance sur le tournage.
Et l'ambiance trop cool, les décors incroyables. Enfin, non, moi j'étais vraiment comme une enfant, quoi. J'avais les yeux tout grands, tout ouverts et je voyais tout ça défiler en me disant, ouais, c'est
fou. Juin 2014. Antoine Baduel reçoit Danone.
Et cette semaine, on est plongé, vous le savez, dans la période de la French Touch, les années 90, début des années 2000, quand le monde se prosternait devant des DJ français. Période surtout où on découvre les musiques électro, les rêves parties, c'était une effervescence totale avec des hits qui sortaient chaque jour. Qui ne se souvient pas du célèbre You Are My High et du clip qui a marqué les esprits, et pas que les esprits d'ailleurs, son auteur Damon, et ce soir mon invité de l'Happy Hour, pour revenir sur ces grandes années à l'occasion de la sortie du film Eden. Bonsoir Damon, bienvenue sur FG.
Merci.
Alors, comme je disais, on revient donc sur la décennie de la French Touch, à la fois à l'occasion de la sortie du film Eden. Question simple déjà pour commencer, comment t'as découvert la musique électro à l'époque? Tu sortais dans les rêves ou dans les clubs?
J'ai un parcours un petit peu différent, c'est-à-dire que au début je faisais beaucoup de rap adolescent et tout ça.
Ah, c'est vrai en plus, voilà. Ouais, je me souviens.
Et j'ai découvert en fait l'électro via la French Touch, c'est-à-dire que moi j'ai découvert Tranquilou, iCube, et tous ces artistes français qui m'ont tout de suite parlé en fait dans le son, puisqu'il y avait cette accroche un peu pas funky mais faite avec des samples très chaleureux, loin de la techno que je connaissais pas du tout, qui faisait pas partie de ma culture. Et puis voilà, j'ai commencé à faire quelques soirées house à Paris sur des péniches, je me rappelle à l'époque, à écouter les gros morceaux d'iCube et Tranquilou. Enfin, je les cite parce que personne ne les cite, donc moi c'est vraiment
bien,
des
bien
artistes
sûr,
que j'ai adoré à l'époque, et avant Daft Punk, avant Motorbass et tout ça. Et en fait, c'est la French Touch qui m'a fait aimer la musique électro. J'ai découvert le reste après, en fait.
Alors, t'as 22 ans quand tu signes chez Sony Music ton premier album Midnight Funk, sur lequel on retrouve le mythique You Are My High. À ce moment-là, comment ça se passe? T'as le sentiment que le monde s'ouvre à toi et que la French Touch te porte, ou c'est plus modeste que ça comme sentiment?
Pour le coup, j'ai vraiment une sensation d'opportunité totale. C'est-à-dire que, avant de signer chez Sony, ça faisait 3 ans que je sortais des maxis dans l'underground sur mon label 20 000 ST à l'époque. On faisait des vinyles, on allait les déposer en magasin. C'était tout un folklore, justement, qui appartient à un autre temps maintenant. Et en fait, toutes les majors voulaient leur artiste French Touch. C'est-à-dire que quand on nous a ouvert les portes, quand moi j'étais un jeune gamin, j'avais une tête de bébé, j'arrivais avec ma maquette d'album un peu bancale. Et voilà, tout le monde voulait écouter, voir si ça allait être leur artiste French Touch. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance en fait.
Oui, et puis en plus à l'époque, les majors voulaient carrément se la raconter par rapport au siège américain anglais pour montrer que justement elles avaient aussi toutes leurs signatures et tous les artistes depuis Paris. Ça a donné un vrai ascendant au bureau parisien, je me souviens. Alors t'avais d'ailleurs créé ce label 20 000 ST, c'était du plus bel effet à l'époque d'avoir sa propre structure, d'avoir son propre label. Toi, tu le faisais dans quelle optique? C'était pour garder cette liberté de production totale qui allait te de pair, j'allais dire, avec cette fameuse French Touch?
Écoute, à l'époque, on n'avait pas encore une réflexion, on va dire, sur tout ça. Je ne connaissais pas le monde de la musique, le marché, les labels, la distribution, tout ça. Ça me parlait pas. Moi, j'étais fan de musique. Je voulais faire des disques, des albums et des DJ sets. Et en fait, c'est mes amis avec qui j'ai monté le label 20 000 ST qui m'ont motivé carrément pour faire des disques. Donc, si tu veux, le parcours, il s'est fait vraiment dans l'autre sens. On a été aspiré par l'envie de créer de la musique, et cette envie, elle venait du mouvement qu'il y avait en France à ce moment-là.
Alors cette French Touch, si on devait simplifier à mort, c'est ce son house filtré qu'on a adoré. Évidemment, les modes changent, alors ça a fini par lasser ensuite, parce que les productions se ressemblaient aussi beaucoup au bout d'un certain moment. Quelle était ton approche musicale à toi? Parce que tu nous le dis, tu viens des racines hip-hop. D'ailleurs, ça s'est vu hein, sur certaines de tes productions qu'on a pu savourer et écouter par la suite, qui étaient vraiment en rupture. Mais au moment de la French Touch, quand il y a eu You Are My High, tu t'es senti comment? Tu t'es dit, il faut que je me renouvelle complètement? T'as voulu marquer une rupture ou...
Tu veux dire juste après You Are My
High? Après, ouais, parce que ça a été quand même un triomphe mondial.
Ouais,
on n'est plus dans le même état d'esprit avant qu'après.
Non, déjà, je pense qu'on ne réalisait pas vraiment ce qu'on avait. Et pour moi, tout ça, c'était des choses qui arrivaient en fait, mais c'était pas quelque chose que je construisais. Et ça, je m'en suis voulu un petit peu après pour ça, parce que voilà, on était jeunes, on était fougueux, et on n'avait pas un plan derrière ça, quoi. C'était, moi, je me rappelle, j'avais joué pendant 3 soirées d'affilée parce qu'on tournait pas mal, et je suis rentré chez moi, je me suis dit putain, j'ai pas de tube, je vais faire un gros morceau, et j'avais envie de compresser la basse de telle façon. Enfin, ça venait vraiment des tripes, ça venait pas du... Il n'y avait aucun calcul de carrière derrière.
Alors de retour avec moi ce soir, Damon dans le studio de Radio FG. Alors Damon, on se souvient de ton énorme tube, hein, You Are My High, qu'on vient de s'écouter, accompagné à l'époque du fameux clip du baiser. C'était presque une première, une vidéo qui a marqué les esprits. Est-ce que c'était ton idée à la base? Et qu'est-ce que ce clip t'a apporté quand il est arrivé sur toutes les télés?
Au départ, c'était pas mon idée. C'était une idée qu'on a eue avec les mecs du label pendant une réunion où on cherchait une idée de clip. Et on avait un poster avec un baiser dans les locaux du label. Et tout d'un coup, il y en a un qui fait « Ouais, c'est ça. On fait ça. Enfin, » c'était aussi simple que ça.
C'est drôle.
Moi, j'ai trouvé ça génial. On est parti dessus direct. Et il a fallu, enfin, contrairement à ce qu'on pense maintenant, parce que il fait partie du paysage et c'est un classique. Il a fallu quand même aller l'imposer aux gens, à la maison de disques, aux chaînes. Et...
Ah ben les chaînes de télé au départ l'avaient boycotté, je crois, avant 22h, si j'ai bonne mémoire. En plus, dans le symbole, c'était drôle, parce que le mec et la nana qui s'embrassent, la fille c'est Draghi que ça.
Ouais, c'est ça.
Hein, qui à l'époque était la petite amie de Wario.
C'est ça.
Si j'ai bonne mémoire.
C'était pas que ça, mais...
Exactement. Mais, et en outre, il y avait, c'était Karim qu'on voyait énormément, qui était un clubbeur qui sortait tout le temps, quoi, qui était vraiment un ouais. incontournable de toutes les soirées. Tu pouvais pas sortir sans tomber sur lui, quoi. Donc c'était quand même assez amusant. Alors devant le succès de ce titre, de nombreux artistes s'étaient rapprochés de toi pour des remixes, notamment je pense au Daft, Mister Oiseau, Étienne de Crécy. T'as gardé contact avec eux, des liens d'amitié, ou alors la French Touch reste, comme certains le disent, une succession de parcours très personnels et individuels?
Deuxième choix, pardon. J'ai encore des contacts avec certains, notamment avec les mecs de Solid, de Crécy, Gopher, pas mal de...
Qui sont restés, moi je trouve, les plus pieds sur terre, très intègres, toujours très... Enfin,
oui,
ils viennent très souvent dans l'émission. Fin...
Et puis pareil, j'ai rencontré des gens importants de la French Touch des années après, quoi. Je suis devenu pote avec Alan Brax et Superman Lover, par exemple. Il y a pas très longtemps, en faisant des soirées ensemble.
Ah bon?
Ouais.
Avec Superman Lover, c'est une histoire d'amitié récente.
Ah ouais, c'est carrément récent, ouais.
Ah, d'accord.
On n'avait jamais joué ensemble avant de faire le Grand Palais avec vous.
Justement. La soirée FG, d'accord.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est drôle. Alors, on le voit dans le film Eden. Certains DJ, la plupart, ont eu du mal à rebondir après la French Touch, une fois que tout est retombé. Comment t'as vécu le truc, toi, quand le soufflet est retombé?
Ah, en fait, on va dire, au niveau French Touch, moi, je me suis un peu suicidé à l'époque. C'est-à-dire que après le premier album qui a été un vrai succès et où tout le monde attendait un deuxième You Are My High, je suis parti dans une direction complètement opposée. Je devais avoir 22 ans, j'étais un peu rebelle et j'avais plein d'envie d'essayer plein de trucs. C'était le début du R&B un peu moderne, Timbaland, Neptune, tout ça. Donc moi ça m'avait fait flasher, j'ai fait un espèce d'album concept à l'antithèse de la France.
Ah, je me souviens, t'étais venu, tu l'avais présenté, il y avait d'ailleurs des morceaux qui étaient très très intéressants. C'était pas du R&B formaté quand même, hein.
Non, je pense que c'était...
Il y avait aussi un mélange, il y avait vraiment une touche très mélangée avec l'électro.
Ouais, moi la sensation que j'ai avec le recul, ce qui me conforte un peu dans l'idée d'avoir fait le bon choix sur ce truc-là, ce qui n'est pas évident vu que ça a moins marché que le reste, c'est que... ce format d'album et de musique, ça a cartonné quelques années après.
Ah ouais.
Et c'est ce qu'on entendait.
Je crois que tu avais même repris une boucle de Chris Cross.
Ouais, c'est ça. Enfin, du sample original de Chris Cross.
Ouais, du jump. Ouais. Et c'est vrai que quelques années plus tard, c'était quelque part, je pense que tu avais plus raison trop tôt. Que tu n'avais été dans la bagarre R&B.
Tu sentais une émulsion, comme au début de la French Touch, tu avais aussi un espèce de truc qui se passait dans le crossover électro-hip-hop, plus américain. Et voilà.
Alors, depuis les années 90, début 2000, tu as sorti pas mal de prod, Happy Therapy, I Think. Qu'est-ce qui te pousse à produire aujourd'hui? Tu cherches à faire les mêmes cartons que You Are My High, ou alors tu as des attentes et des rêves qui sont complètement différents en 2014?
Non, je cherche pas à faire le même carton que You Are My High, mais de toute façon, je sors de la musique, c'est tout ce que j'aime, et donc je sortirai toujours de la musique. Et j'ai mis juste vachement de temps avant d'avoir un album que je veux sortir là. J'ai beaucoup bossé, j'ai essayé de retrouver un peu mes repères et de me retrouver un peu artistiquement, parce que justement c'était devenu un peu compliqué, je faisais plein de trucs à droite à gauche et tout. Donc voilà, tous ces maxis c'était des one shots. Voilà, l'album est prêt et je vais pas tarder à dérouler.
De toute façon, ce sera le plaisir de t'inviter à nouveau, mais pour parler cette fois que de ça, c'est-à-dire des nouveaux projets, de l'année 2015 et de l'album. En tous les cas, Damon, merci à toi.
Merci
Damon,
à
qui marqua en 2000 la vague French Touch avec son tube You Are My High, semaine spéciale French Touch hein, sur Radio FG, à l'occasion de la sortie du film Eden qui sort aujourd'hui dans les salles. Un film où trois d'ailleurs des scènes ont été tournées dans les studios de Radio FG.
Novembre 2020, Antoine Baduel reçoit Clapton.
Et ce soir, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Clapton. Il fait partie de ces DJ dont on ne voit jamais le visage. Il porte un masque vénitien devenu célèbre, hein, tout comme ses fameuses soirées Masquerade. Clapton a encore une fois triomphé au top 100 DJ alternatif en étant le numéro 1 de la catégorie House. Le DJ allemand, qui est venu plusieurs fois d'ailleurs dans nos studios, est avec nous ce soir dans la Power, où on accueille donc toute cette semaine les meilleurs DJ du monde. Et on commence donc ce soir avec Clapton. Guten Abend, Clapton, wie geht's dir?
Bonsoir, FG Radio. I'm good, thank you.
Alors, d'abord Clapton, revenons avec toi sur les fameux classements du Top 100 DJ Mag. Une belle progression de 12 places hein, au Top 100 DJ. Tu es 41e désormais, mais surtout dans le Top 100 alternatif, tu arrives 3e au classement général et 1er dans la catégorie House. Ça fait 4 ans de suite. C'est beau comme reconnaissance du public sur plusieurs années, ça quand même.
Yeah, it surprises me every time again and again, every year.
Cela me surprend à chaque fois, encore et encore, chaque année. C'est vraiment incroyable de savoir que les gens soutiennent ma musique, adorent venir au show quand il y en a, et même apprécient les streams.
Alors, en réaction à ce prix, tu as d'ailleurs posté un message de remerciement sur tes réseaux sociaux. Tu indiques d'ailleurs que cette distinction signifie encore plus de choses pour toi cette année. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
Avec l'épidémie de Covid autour de nous, c'était très différent pour moi par rapport à l'année dernière, depuis le mois de mars. Je faisais des dates chaque semaine et soudainement cela s'est arrêté. Et je ne pouvais pas être avec mes fans. Je ne pouvais plus jouer pour une foule. C'était une sorte de sentiment terrible de seulement pouvoir leur proposer des live streams. Quand tu es DJ, chaque week-end, tu vois tes fans et chaque week-end, tu joues pour des gens qui veulent passer un bon moment. C'était vraiment une chose bizarre. Et donc, ce fut encore mieux pour moi de réaliser que les gens n'ont pas oublié Clapton. Les gens ont apprécié les streams, ils ont aimé la musique, ils ont adoré les mix et ils pensent encore à moi.
Et c'est évidemment une année très particulière pour tout le monde. Et étrange même pour les DJ qui, d'ordinaire, enchaînent les clubs et les festivals tout l'été. Là, rien de tout ça. Alors, comment tu te sens là, toujours avec toujours cette vie nocturne à l'arrêt partout dans le monde? Est-ce que, comme c'est le cas pour de nombreux DJ, tu en as profité de ce temps libre de ces derniers mois pour produire plus de sons?
Yes, in fact, I did. Yeah, it's.
Oui, c'est le cas. J'ai tellement produit de titres qu'il y aura un album l'an prochain. Je sortirai des sons assez tôt l'année prochaine et je pense que c'est les meilleures tracks que je n'ai jamais faites parce que d'un coup, j'ai eu tellement de temps que j'ai pu travailler avec tellement de gens et à la fin, j'ai terminé tellement de chansons donc j'ai pu choisir les meilleures pour mon 3e album à venir. Et oui, ce sera incroyable.
On sait que pour toi, jouer en live avec du public, c'est ce que tu préfères. Tu insistes d'ailleurs souvent sur l'amour pour le son, la musique, la fête. Est-ce que tu arrives déjà à te projeter, par exemple, pour une Masquerade en 2021? On imagine que l'ambiance sera exceptionnelle lors des premiers festivals qui auront lieu quand ce sera possible. T'arrives à y penser, à rester positif?
Yeah, I mean, from time to time, it's hard.
De temps en temps, c'est compliqué. C'est lourd pour soi et c'est lourd pour les gens qui veulent faire une bonne fête et voir de bons DJ. C'est pesant dans les deux sens. Donc, quand ce sera fini, ce sera incroyable et on fera les meilleures soirées de notre vie.
Enfin, pendant le confinement, on a découvert aussi un Clapton qui maîtrise très bien la cuisine, aussi bien que les platines, grâce aux épisodes Clapton's Quarantine Quarantine. La musique, c'est comme la cuisine, hein, c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement, du coup je le découvre. Tu te serais bien vu faire ce job si tu n'avais pas été DJ?
J'aime cuisiner pour le plaisir à la maison quand j'ai le temps. Et là, je n'ai jamais eu autant de temps. Mais je pense que c'est vraiment différent d'être chef dans un restaurant. C'est beaucoup de pression et un métier très compliqué. Probablement, j'échouerai. Mais j'admire cela, c'est un art et j'ai une passion pour la bonne nourriture.
Merci Clapton et encore une fois bravo. On rappelle numéro 1 de la catégorie House dans le top 100 alternatif de DJ Mag. Après David Guetta hier, numéro 1 du top 100 mondial. Et bien les meilleurs DJ sont sur FG cette semaine puisque Charlotte De Witt, première du top 100 alternatif, sera dans l'Happy Hour pour nous cette semaine. Pour cette semaine exceptionnelle, ce sera demain soir. Clapton, once again, congratulations.
Merci beaucoup.
Merci mon ami, à bientôt. Merci beaucoup, c'était Clapton mon invité ce soir sur FG.
Avril 2015. Antoine Baduel reçoit Superpose.
La pureté de la musique, la noblesse des instruments, plutôt qu'un gimmick ou un drop déjà vu et revu, en tous les cas, c'est le choix qu'il a fait, Superpose, ce jeune artiste qui nous vient de Caen. Il nous livre son premier très bel album qui s'appelle Opening. Il va nous plonger d'ailleurs, pardon, je reprends ma phrase, il va vous plonger d'ailleurs dans différents univers, vous envelopper dans une voile de notes, d'envolées mélodiques. Un album déjà salué par les puristes de l'électro. Superpose qui est mon invité ce soir de la Happy Hour sur FG. Bonsoir Gabriel,
bonsoir.
Bienvenue sur FG. Alors déjà deux singles issus de cet album, Unlive et Overseas, deux tracks qui nous montrent l'étendue de ton talent et le côté un peu hors du temps de cet album Opening, à la fois mélancolique mais aussi avec des sons percussifs. Alors c'est toujours drôle d'ailleurs de voir la jeune génération qui fait preuve de mélancolie. C'était quoi l'état d'esprit dans lequel t'étais quand t'as fait cet album?
C'est un album que j'ai fait déjà, ça paraît évident, mais de manière très seule, en tant que producteur, solitaire, dans ma chambre. J'étais enfermé pendant un an là-dessus.
Ah ouais, c'est un geek project en fait.
Bah, pas tout à fait, parce que en fait, j'ai commencé comme ça dans cette chambre pendant 3 mois, à partir de janvier 2014.
Et puis ensuite, t'as déménagé.
Non, ensuite j'ai fait une tournée à l'étranger. En fait, je suis parti en Amérique latine et puis en Asie, tout
donc
seul.
Ça pendant... t'a nourri.
Ouais, exactement.
Et là, tu as continué l'album en voyageant et en faisant la tournée.
Voilà, exactement. Et Overseas, c'est le premier morceau que j'ai composé en rentrant de cette tournée en Asie. Donc peut-être que l'idée de vaste, de large et le besoin d'air et de mélancolie vient de...
Mais
de
c'est intéressant ce que tu me dis, parce que cet album, moi, il m'a fait beaucoup plus penser aussi à une bande originale de film ou alors une synchro, tu vois, un peu onirique, qu'à un titre club. Alors je me suis même demandé si tu voulais pas être narrateur plutôt que DJ ou producteur. Est-ce qu'il y avait la volonté chez toi justement de créer une atmosphère plus qu'un track?
Tout à fait. En fait, j'aime les deux aspects et je pense que je peux avoir les deux casquettes. J'ai fait des collaborations qui était beaucoup plus orienté club avec un autre producteur qui s'appelle Stu sous un autre nom qui s'appelle QH et quand j'ai commencé à faire cet album, j'ai vraiment eu envie de faire un album qui ait du sens en tant que tel. C'est-à-dire que j'aime beaucoup composer la musique au track by track, je traîne tout le temps sur SoundCloud et j'aime la musique club, mais dans la volonté de faire un album, je voulais pas faire une compile de morceaux. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté narratif, ce côté presque récit sur l'album.
Alors, ceux qui suivent ta musique depuis le début risquent même d'être un peu déconcertés à l'écoute de ces projets et avec cet album où tu pars dans des directions qui sont parfois, j'allais même dire, inclassables. Alors, pourquoi ce changement de cap ?
C'est venu très, très naturellement. C'est pas quelque chose qui a été réfléchi. La seule réflexion, c'était que je voulais un peu m'éloigner des formats pop que j'avais avant où on pouvait identifier.
Et de la facilité, moi, je trouve. Du formatage en tous les
ouais,
cas.
Ouais, voilà, en fait, c'était le. Avant, je composais vraiment morceau par morceau, donc forcément, j'essayais de tout mettre en un morceau. Il y avait des couplets, des refrains identifiables, je voulais que les idées soient toutes réunies en un morceau. Et là, si une idée n'était pas dans une des pistes, elle pouvait être dans l'autre, en fait. Cet album pourrait presque être une seule piste. Donc, le changement, il vient vraiment des structures de morceaux, plus que des sonorités. Évidemment, les sonorités, elles évoluent, mais ça, c'est propre à tout artiste. On fait jamais la même chose.
Et la mélodie, alors, parce que t'en parles pas pour le coup.
La mélodie, c'est un truc qui a toujours été très important pour moi.
Bah, justement.
Voilà, c'est plus le. En fait, j'ai tout composé au piano. Donc forcément, ça, je suis jamais parti de rythmique. J'ai jamais commencé un des morceaux par un kick ou par un gimmick percussif, qui était ce que je faisais avant sur mes morceaux précédents.
Ah oui, t'as inversé la démarche et tu viens du conservatoire en fait.
Ouais, je viens du conservatoire où j'ai appris les percussions. Mais en percussion classique, on apprend aussi à jouer des claviers. Il y a des xylophones, vibraphones, marimba, tout ça, c'est des claviers. Donc on apprend les deux. Et je pense que sur mes EP précédents, c'était mon côté percussion frappée. Et là, les claviers compris le dessus, peut-être sur l'album.
On va écouter Overseas tout de suite, comme ça va vous permettre d'avoir un avant-goût de ce que ça donne. Et on revient dans un instant avec Superpose qui est mon invité ce soir de l'Happy Hour sur FG. Voilà, il y a mon qui passe. Overseas, donc extrait du prochain album Opening de Superpose. Superpose qui est mon invité ce soir de l'Happy Hour sur Radio FG. Et on retrouve Superpose, alias Gabriel, un jeune DJ producteur originaire de Caen, qui est mon invité ce soir dans l'Happy Hour sur FG. Alors Gabriel, on parlait de ce premier album, Opening, et je retrouve dans ton approche celle d'un autre artiste au son très différent du tien, c'est Madeon. Vous conceptualisez tous les deux beaucoup votre musique dans la manière d'en parler, il y a une approche aussi qui est très réfléchie, mature, intellectuelle aussi. Alors toi par exemple, je t'ai vu parler de couleurs pour définir ton album, ça veut dire que tu l'as gambergé avant même de te mettre au boulot et de poser une note?
J'ai toujours fait des liens entre musique et couleur et je voulais faire un album bleu, noir et blanc. Je sais pas comment l'expliquer autrement qu'en faisant de la musique et qu'en montrant des couleurs avec. C'est un truc qui est assez fréquent dans la musique, la synesthésie, c'est beaucoup de gens en parlent. Je sais pas si je le suis parce que je pensais pas à ça enfant. En tout cas, j'avais pas ce lien musique-couleur quand j'étais enfant. Mais en écoutant de plus en plus de musique et en écoutant des interviews d'artistes, j'ai commencé à faire des liens entre ces choses-là. Et c'est dans les mélodies, ouais, je voulais du bleu, du blanc. Voilà.
Alors, comment tu décrirais la globalité de l'album ? On est dans la techno, dans le minimal, dans l'expérimentatoire, dans l'expérimentation ?
Peut-être un peu de tout ça. On est dans...
C'est dur d'étiqueter en même temps. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est une obsession française, mais il faut bien aussi que les auditeurs puissent se repérer. Donc j'essaie quand même aussi de justement de donner des clés par rapport à un album qui est très intéressant, mais en même temps qui est conceptuel.
Il y a des influences techno dans la progression, dans l'idée de laisser le temps à la musique de se développer, plus que dans des formats pop que je pouvais utiliser avant. Là, il y a vraiment de la techno là-dedans. Il y a certains morceaux qui sont clairement influencés par de la techno allemande. Il y a un morceau qui s'appelle Time Travel sur l'album où il y a vraiment un pied sur tous les temps et où c'est un synthé qui se développe pendant 4 minutes. Voilà, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus inspirés presque de Overseas notamment qu'on a écouté. C'est l'influence est lointaine, mais c'est un morceau qui est à 140 BPM, qui est presque influencé de trucs trap et hip hop que j'ai pu écouter, même si c'est loin du morceau, il y a quand même ça qui est dedans. Donc c'est ça fait appel à plein d'influences, des influences de musique même de garage anglais et de musique classique que j'ai étudié au conservatoire, que j'ai appris.
Et en live, alors ça va donner quoi?
En live, j'avais plusieurs idées de mise en place. Ça pouvait être joué de manière presque acoustique ou avec un groupe, et en même temps j'ai ce truc de producteur électronique solo, et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, et c'est ce que je mets en avant pour le moment. Donc je joue en live avec des contrôleurs et un clavier. Je développe les morceaux, je développe ce côté techno justement.
Alors on va parler rapidement aussi de la ville de Caen dont tu es originaire, une ville où Radio FG d'ailleurs cartonne. Il y a des artistes qu'on soutient beaucoup et que j'ai beaucoup de plaisir à interviewer, comme Fakir, qui est un autre DJ producteur d'ailleurs qui est pote avec toi je crois. Il semble y avoir pas mal d'artistes qui se sont mis à l'électro, une sorte de Caen Connection. Alors est-ce que comment tu l'expliques? Est-ce que c'est la dynamique d'une salle de musique actuelle comme le Cargo, comme Nordic Impact? Qu'est-ce qui fait pour toi ce genre de choses?
Je pense qu'il y a plein de choses. Évidemment, il y a ce festival Nordic Impact qui est très important, auquel on est tous allés étant adolescents. Voilà, et maintenant on est programmé dans ce festival, donc on est très heureux. Et moi, j'y retourne là cette année, donc je suis hyper content. Il y a la salle du Cargo dont tu parles tout à fait, qui est un truc important, qui est une salle qui nous a toujours soutenus et accompagnés. Et en même temps, il n'y a pas tant de choses à faire que ça, donc on s'enferme et on fait de la musique. Donc c'est un espèce de mélange de volonté de faire des choses dans des petites villes de province où il ne se passe pas forcément énormément de trucs et où les événements majeurs sont...
Mais les événements majeurs sont de qualité.
Exactement.
Donc ils marquent en tous les cas vraiment le public, peut-être trois fois plus que finalement dans les villes où il y en a beaucoup et où les gens sont peut-être un peu plus blasés.
Oui, ça c'est évident, c'est évident.
Mais c'est comme Stockholm, vous allez devenir la nouvelle Swedish de la scène française. En tous les cas, il vient de Caen, il nous livre un album d'une qualité évidente, très instrumental, charnel aussi, Superpose qui sort opening. On espère en tous les cas que ce sera pour lui l'ouverture d'une belle carrière. Les infos sur sa page, c'est comme son nom l'indique, Superpose avec un Z. Merci Gabriel.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur FG.
Octobre 2021, Antoine Baduel reçoit Bob Sinclair.
La référence à House Electro, c'est le moins qu'on puisse dire ce soir, parce qu'il y a des permanences dans la vie des évidences, comme celle de recevoir mon ami de longue date, Bob Sinclair, quand il sort un single. Ça s'appelle un rituel, les amis, parce que c'est la famille, bien sûr, mais aussi parce qu'on aime sa house, la vraie. J'allais presque dire celle qui a un ADN, justement, et ça tombe bien, puisque c'est le titre, précisément, du nouveau single de Bob Sinclair, qui s'appelle DNA. Bob Sinclair, mon invité ce soir pour une soirée exceptionnelle en interview suivi d'un mix. Mon Chris, bonsoir.
Bonsoir Antoine,
toujours
bonsoir à tous.
Toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés.
Merci.
DNA, donc pour un ADN, donc celui évidemment de la house music avant tout. Avec cette fois un single plus posé. C'est vrai qu'on rentre en automne, hein, les joies de l'été sont un peu derrière
on
nous.
On ne danse plus.
On va passer à l'heure d'hiver. Voilà, c'est vrai que tu nous as habitués avec We Could Be Dancing à une production un peu chaloupante, un peu rythmée. Qu'est-ce qui t'a conduit à ce single à la fois, j'allais dire, plus glamour, mais en même temps un peu mélancolique?
C'est moi.
C'est toi.
Tu viens de me décrire en deux mots.
C'est vrai, c'est
glamour
ça.
Et mélancolie. Non, j'ai fait le We Could Be Dancing juste avant l'été, après le troisième confinement. Je voulais une couleur festive, très italo-disco, ouais. Et je continue. Voilà, et j'ai Donc la chanteuse qui s'appelle K-E-E, donc c'est la femme de Sébastien Ingrosso, figure-toi. Et oui, de la Swedish House Mafia.
Et lui aussi l'appelle en lettres.
Il l'appelle. Kiki, viens à la maison. Elle m'a envoyé. Alors, elle a écrit Hit on the Floor. C'est de Jennifer Lopez. Et elle fait partie de. Tu sais, elle écrit des mélodies et des textes pour le top 40. Elle est songwriter, exactement. Donc, ils font des camps d'enregistrement partout dans le monde. Et elle m'a envoyé cette a cappella parce qu'elle avait écouté We Could Be Dancing. Elle dit, écoute, produis ça dans le même esprit et ça devrait le faire. J'ai dit, pourquoi pas?
Alors. Justement, parlons-en, parce qu'il y a un truc qui fait que ça le fait aussi, c'est le clip. Et ça tombe très très bien que tu sois notre invité cette semaine, parce que figure-toi, c'est incroyable, ton morceau sort vendredi, et nous, cette semaine, le thème de la semaine, c'est les rapports très proches entre les musiques électroniques et la vidéo, et la beauté de l'image. Il y a Parawan qui sera notre invité demain, et là, quand je vois le clip, il rajoute un truc incroyable à ce morceau, il lui donne tout son sens. Il y a évidemment, il y a Théa Ross, donc, qui est top modèle, qui feature dans le clip. Ouais. Absolument, et un côté aussi parisien, parce que là pour le coup la capitale sert de décor, l'un des rares moments d'ailleurs de beauté du confinement, j'imagine.
Et oui, et j'ai tourné les images avant de faire la chanson. Je me suis dit, moi je suis toujours un peu fou, c'est pendant le premier confinement, je me suis mis derrière mes platines et finalement ça a plutôt cartonné. Et donc le troisième confinement, je dis, il faut faire des images. Ce sera la dernière occasion, je pense, j'espère, avant longtemps, d'avoir un Paris complètement vide.
Bien sûr.
Donc j'ai eu l'autorisation bien sûr de la mairie de Paris, avec une équipe très réduite, pour faire quelques images. Il faisait très froid, je fais ça au mois de février. Bon, et ça donne, tu vois, ça donne. Je marche rue de Rivoli à la Concorde, les Champs-Élysées, juste
sous les arcades.
Seul,
c'est ça.
Tout seul dans Paris, pas une voiture.
Donc ça donne un clip magnifique et une angine le lendemain, c'est ça.
J'avais mis mon Damar, t'inquiète.
Bah, il est bien caché, le Damar. Caché, ouais. Alors, donc, la capitale, là, c'est évidemment, c'est ton deuxième ADN, il faut le dire. Hein, c'est le deuxième ADN de Bob Sinclair, Paris by Night. Hein, depuis le début, Paris qui t'inspire. Hein, on se rappelle tous, évidemment, du titre de ton album Champs-Élysées. C'est toujours une carte postale, d'ailleurs, qui fait rêver. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. J'allais dire Paris, arme de séduction massive. Mais finalement, quelque part, une esthétique dans ton clip, moi, qui est troublante. On dirait une pub pour Dior ou pour Chanel.
Je voulais faire une pub de parfum. Eh oui, et bon,
et c'est pour ça qu'on t'a vu partout,
appelé, donc je le fais pas. Oui,
c'est pour ça qu'on t'a vu dans tous les défilés de la Fashion Week.
Mais vraiment pas en plus.
D'accord. Donc en fait voilà, mais ce clip il est assez prodigieux. Je vous recommande vivement de le regarder. Il est absolument sublime. Bob Sinclair, mon invité ce soir pour une soirée spéciale à l'occasion de la sortie de son nouveau single DNA. Alors Chris, on le disait, Paris by Night, c'est le nom aussi de ta résidence de au Pacha d'Ibiza. À ce propos, je t'avais invité juste avant l'été pour qu'on parle un petit peu de cet été. Comment ça s'est passé? Est-ce que il y a eu, j'imagine, beaucoup de dates et beaucoup de plaisir?
Mais
pour
on
toi.
A eu que des dates en France. On a eu là vraiment, je sais pas. Qui s'est passé dans le gouvernement, mais ils nous ont donné l'opportunité d'ouvrir les festivals et les clubs.
Bien sûr.
Alors on a eu un peu peur, parce que je dis parce que c'est, on se concerte un peu tout le monde, c'est qu'au mois de juillet, ils annonçaient quelques clusters un peu partout dans le sud. On avait peur que ça ferme début août et ils ont pris le risque et ça a bien marché, parce que finalement.
Et ça a bien tenu.
Et ça a bien tenu, parce que l'organisation des festivals était vraiment impeccable au niveau sanitaire. C'était vraiment.
Ouais, le pass sanitaire, tout a été respecté. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pays où vraiment il n'y a eu que la France où tu as pu jouer?
Non, il n'y a eu que la France. Il y avait eu le festival en Croatie avec Defected. Ouais. Ils ont eu une autorisation spéciale et encore une fois là,
très ponctuel.
Tu ne pouvais pas voyager si tu n'étais pas vacciné.
Ouais.
Voilà. Mais c'est tout.
Ah oui.
Ouais, mais ça m'a permis de faire des festivals comme le Touquet aussi. Alors, dans le sud de la France, à Marseille, voilà, plein de choses différentes.
Et ce que j'allais dire, c'est que ça t'a permis aussi de peut-être te replonger comme c'était le cas il y a 15 ans où tu faisais principalement tes dates en France et puis après un peu d'étranger, mais de revenir avec ton public aussi, retrouver ton public qui te voit pas forcément tout le temps. Alors, j'ai regardé, alors, la presse est assez dithyrambique hein, sur l'article, sur la sortie de DNA. En revanche, le catalogue éternel de la presse française, Bob Sinclair, je cite, prend le virage des années 80. Fin de citation.
D'accord.
Sauf que c'est pas du tout nouveau. Évidemment, ça, c'est ce que les gens savent pas, c'est que j'évoquais Champs-Élysées depuis le début de ta carrière, ce son, ces influences. Et finalement, quelque part, c'est très intéressant. Est-ce que toi, justement, ça t'amuse de voir un peu ce public qui va avoir l'impression de te redécouvrir, alors que finalement, la house, la disco, tout
mais
ça, c'est une roue éternelle.
Mais il y a pas de problème à me redécouvrir, je suis toujours là. Je prends pas une ride.
Je suis éternel.
Pendant le confinement, on me disait, on a redécouvert Bob Sinclair à travers ses mix, il nous a fait redécouvrir des sons. Il y a pas de problème. Vraiment, j'ai la chance de faire ce que je fais, tu vois. Tu me connais depuis toujours
et d'être un vrai passionné.
Yellow Production, le label, les vinyles, et je suis toujours là à parler avec toi. Tu m'invites, tu fais des singles, voilà. Chaque jour, c'est un moment extraordinaire.
Et c'est ça, justement, c'est ça aussi ton ADN et c'est pour ça qu'on t'aime. Alors, ces morceaux, tu les as sortis par le passé avec une incroyable fraîcheur. Je pense à Champs-Élysées, quand on le réécoute, il n'a pas pris une ride cet album. C'est ça qui est incroyable.
Ça dépend des morceaux quand même.
Mais bon, en tous les cas, les blockbusters, on les retrouve bien. Est-ce que tu prends toujours, toi, du plaisir à les ressortir dans tes sets? Est-ce que tu as besoin de les remixer quand tu les rejoues, ces morceaux-là?
Alors, je suis mon premier fan.
Ouais.
Donc, je reprends les sessions originales, tu vois, et je change juste la rythmique. Parce qu'en fait, c'est juste comment dire aux gens, c'est la batterie qui change et qui est aujourd'hui beaucoup plus grosse parce que tous les sons sont beaucoup plus émulés, beaucoup plus produits. Donc voilà, donc pour donner un gros son aux anciens titres, il faut les reproduire, mais je les reproduis à l'identique.
En fait, tu les remasterises en quelque sorte.
Ouais, je les reproduis vraiment parce que le masterisé, on agit sur l'équalisation. Mais je refais une production, mais dans l'esprit de l'original, avec une production actuelle.
Février 2018, Antoine Baduel reçoit Fabrice Dayan.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Fabrice Dayan. Il rejoint la famille des DJ résidents d'FG Chic. FG Chic, vous le savez, c'est à la fois une émission quotidienne sur Radio FG, c'est également une radio que vous pouvez écouter partout en France, partout dans le monde, sur votre téléphone, via l'application Radio FG. Mais c'est une radio que vous pouvez également écouter en DAB+, à Paris. Il est résident du Rasputin, un des symboles du chic parisien et des sonorités tout aussi classieuses. Un de ses résidents, Fabrice Dayan, donc, qui rejoint cette écurie d'FG Chic. Et c'est l'occasion pour nous de nous pencher à la fois sur tous ces lieux qui sont finalement des endroits absolument incontournables du son parisien. Fabrice Dayan, qui est mon invité ce soir. Bonsoir Fabrice.
Salut Antoine.
Ça me fait plaisir de t'accueillir. Depuis le temps quand même qu'on discute comme ça, de t'avoir en live dans les studios, ça faisait trop longtemps mon ami. Alors toi tu es résident du Rasputin, une institution de la capitale qui se trouve dans le Triangle d'Or, à quelques mètres des Champs-Élysées, un lieu prestigieux classé monument historique, je le précise, un endroit magique. Comment tu nous le décrirais au niveau de la musique? Parce qu'on dit souvent que c'est le temple de la Deep House.
Bah écoute, au niveau de la musique, ça reste électronique, mais avec un côté accessible sur les gens. C'est-à-dire qu'il a fallu convertir les gens qui ne connaissaient pas l'électronique. Il ne fallait pas trop les brusquer. Donc, c'était un peu le but de les prendre par la main, de leur dire, voilà, le côté underground, on va oublier. Et puis, il fallait les intéresser comme ça, en passant par la petite porte.
Alors, je vois qu'il y a beaucoup de soirées, notamment à l'origine desquelles tu es, hein, au moment des grandes dates. Évidemment, on parle de la Fashion Week ou de moments comme ça, incontournables parisiens. Est-ce que c'est l'occasion pour des lieux qui sont très exclusifs aujourd'hui d'avoir une programmation pointue? Tu me disais tout à l'heure qu'il y aurait Damian Lazarus qui serait là pour la prochaine Fashion Week qui sera à la fin du mois à Paris.
Alors il y a Bedouin surtout qui va être là.
Ah ouais, très bien.
Voilà, ça c'est sûr.
Et là c'est déjà un peu underground quand même.
Bah oui, tout à fait.
C'est pointu, c'est l'occasion justement de programmer des artistes.
C'est l'occasion et c'est surtout le moyen de faire découvrir à une niche différente des artistes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans un lieu qui est quand même accessible et petit, c'est-à-dire qu'il y a une proximité, c'est pas un club de 2000 personnes, c'est quand même assez exclusif. Donc il y a une petite valeur ajoutée à ça. On sent vraiment comme à la maison.
Alors, il y a une chose qui m'amuse beaucoup, Fabrice, c'est que tu as, comme Radio FG, un passé aussi très underground, puisqu'on t'a connu quand même aussi dans les free parties, hein, il faut le rappeler. En tous les cas, l'underground te parle. Comment on passe justement de... Et il y a des artistes comme ça, ou des gens qui ont été très emblématiques des rêves dans les années 90, qui aujourd'hui sont très liés à la scène Deep House. Hein. Je pense à des gens comme Antoine Kraft, hein, qui est par exemple le manager aujourd'hui des Synapsons et qui à l'époque faisait les soirées des Spiral Tribes. Comment on passe de l'underground, des free parties, des sound systems au cadre très classieux et down-tempo du Rasputin?
Bon, alors là, il faut se replonger déjà dans l'époque. Hein. Rappelle-toi, à l'époque, puisque FG faisait partie aussi de cette histoire-là, il faut se rappeler qu'on suivait les panneaux VTT dans la forêt.
Pour vous donner nous les adresses.
Voilà, les adresses. Vous donniez tous les week-ends des adresses pour qu'on se retrouve dans des champs ou dans des lieux improbables. Et puis à un moment donné, avec le succès, les clubs conventionnels se sont retrouvés un peu vidés et ils ont décidé à la dernière minute de prendre un virage à 360 degrés et se dire, écoutez, bon, bah, puisque vous videz les clubs, on va faire entrer la musique électronique dans nos clubs conventionnels. Donc ça a pris un petit peu de temps avant qu'ils s'adaptent à ce format-là. Et moi, à ce moment précis, bah, moi, j'étais dans la techno et j'ai saisi l'opportunité. Et début des années 90, je suis rentré dans les clubs du sud de la France avec de la techno, de la house. Et il fallait aussi pas les brusquer. Donc, c'est comme ça un peu que ça s'est passé.
Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que justement, je pense que tu fais partie de ces artistes qui sont capables de faire entrer justement le son Deep House, mais toujours avec une petite touche un peu underground, un peu exigeante. On en parlera tout à l'heure. Fabrice, tu es avec nous aussi ce soir parce que tu rejoins cette famille justement d'FG Chic. Ce sera tous les vendredis de 22h à minuit pour ta résidence. Mais il faut préciser aussi une chose, tu as en outre ton label Voyeur Musique, présenté comme un laboratoire musical. Sur quoi t'aimes travailler?
Ah bah surtout, je me mets aucune barrière là-dessus. Si je reçois demain un truc qui est un peu crossover, hein, qui soit trip-hop ou n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Je me débrouillerai toujours derrière pour essayer de faire des interprétations et des remixes sur la phase B, de remixeurs différents pour que chacun qui écoute le label trouve quelque chose qui l'intéresse sur chaque sortie.
C'est quoi l'approche? C'est de découvrir de nouveaux sons, d'explorer justement des sonorités un petit peu plus underground, découvrir des artistes?
Bah, j'essaye de sentir ce qui va se passer demain aussi. Là. C'est-à-dire que quand on a une approche où on parle beaucoup de deep house, moi j'aime pas vraiment le nom aujourd'hui. J'aime bien qu'on parle de musique électronique dans le sens large du terme. J'ai pas envie qu'on démode, qu'on galvaude un terme en fait. Demain, je pense que les gens qui sont quarantenaires, qui ont envie d'écouter de l'électronique, je veux pas qu'ils se sentent faire partie d'une élite. J'aime bien l'idée de démocratiser le truc tout en gardant l'aspect qualitatif.
Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on Rasputin, il y a des grandes stars aussi, des platines qui viennent. Tout à l'heure, tu nous en parlais, mais il y a aussi des artistes comme Luciano, Guy Gerber qui sont venus. C'est intéressant parce que finalement, dans des lieux qui sont très, aujourd'hui très exclusifs, c'est l'occasion justement de faire entrer l'underground, qui est plutôt réputé de rayonner plutôt dans des clubs comme le Bergheim à Berlin ou des clubs comme ceux d'Ibiza, comme le High par exemple. Est-ce que tu as l'impression que le public aujourd'hui, sur des sonorités pointues, tech house, new disco, est de plus en plus réceptif à ce genre d'artistes?
Bah en fait, dans cette ère-là d'ultra-personnalisation de tout, dans la musique, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas touché à la musique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a essayé, à un moment donné, de se dire « Ok, on connaît la pop, on connaît la disco, mais dans l'électronique, ça faisait partie d'un autre monde. » Et là, petit à petit, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'allaient jamais à Ibiza, partaient en été, découvraient des trucs, ils s'y plaisaient, ils rentrent en France, ils achètent des compilations, ils s'intéressent aux artistes, ils finissent 5 ans plus tard à Burning Man, voilà, dans le désert. Bon, mais c'est un peu ça, hein, franchement. Et c'est pas plus mal parce que quand on aime quelque chose, on le revendique. Et quand on le revendique, eh ben, y a plus de monde qui est intéressé à ça. Et c'est le but du jeu.
Alors, je ne sais pas si tu... Évidemment, toi, tu le sais, mais peu de gens le savent. Serge Gainsbourg ou Marlène Dietrich ont d'ailleurs fréquenté le Rasputin, mais aussi des gens de la mode comme Karl Lagerfeld, Rihanna, Madonna. Le club est select, il est mythique. Depuis le temps, toi, que tu y travailles, quel souvenir marquant d'une personnalité que tu as pu rencontrer en lien avec la musique? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
Oh, moi, je pense tout de suite à Marc Cerron. J'étais complètement figé quand il est arrivé dans le club. J'en ai rencontré plein, mais Cerron en particulier. Moi, ça me touchait parce que j'ai grandi avec ça et que ça représentait un peu le français exporté à l'étranger, qui a cru en ses rêves, qui faisait quelque chose d'inouï pour l'époque, un pionnier dans son domaine. Et quand il est arrivé vers moi, je veux dire, j'en ai vu passer, mais lui, j'avais même pas parlé quand il est venu, il m'a remercié. Puis quelques années plus tard, c'est devenu le parrain le premier album du club, quoi. Donc, ouais, c'est un peu surréaliste, c'est devenu un copain depuis, mais ce moment-là, ouais, je l'oublierai pas parce que ça voulait dire beaucoup de choses pour moi. Et je me suis dit que c'était pas la dernière fois que ça allait arriver, ce genre de surprise.
Un Rasputin d'ailleurs qui s'est décliné lui aussi à l'étranger, un Marrakech, Rome. C'est la même musique dans tous ces clubs-là? Il y a une essence musicale Rasputin aujourd'hui?
C'est électronique, hein, en majorité. Ça peut pas changer de ça.
Et ben en tous les cas, ça changera pas non plus. Le vendredi sur FG Chic de 22h à minuit, notre ami Fabrice Dayan qui rejoint la Dream Team des résidents. Au passage, vous pouvez l'écouter, le savourer au Rasputin à 58 rue de Bassano dans le 8e à Paris. Il a pris donc sa résidence sur FG Chic de 22h à minuit. Je vous le disais, vous avez toutes les infos sur fgchic.com. Merci Fabrice et merci à très bientôt sur FG. C'était un plaisir.
Janvier 2021. Antoine Baduel reçoit The Magician.
Connaissez-vous The Magician? The Magician qui est mon invité ce soir sur FG, on lui doit un remix immortel, celui-ci. Autre pépite qu'on avait découvert d'ailleurs dans le starter FG d'Hakim il y a de nombreuses années, je crois que ça ne nous rajeunit pas, je viens de me prendre une baffe, je crois que ça fait près de 10 ans déjà ce remix. C'est juste incroyable. On dit parfois l'important dans le métier, c'est de durer, et notre ami bruxellois The Magician, ça fait plus de 10 ans qu'il est à sa place de vigile à House Music, proposant sa propre vision dans ses productions et aussi celle des autres dans son mix mensuel Magic Tape qui fête sa 100e. Et sur FG, The Magician, c'est évidemment aussi l'homme de ce remix, Likili, qu'on vous faisait écouter tout à l'heure. Il est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir, comment vas-tu?
Bonsoir, ça va
en tous
bien.
Les cas, Stéphane, bienvenue à toi sur FG. Merci. Bonne année, on a encore le droit de se le dire pour quelques jours. Ce remix de Likili qu'on s'écoutait, c'est évidemment celui qui t'a révélé. Et depuis, tu n'as cessé de produire, de fouiller dans les bacs à disques du monde entier pour en extraire le meilleur avec tes Magic Tape dont tu fais aujourd'hui la 100e édition. Est-ce que dès le début, c'est-à-dire il y a 10 ans, tu voulais faire de ce mix mensuel une vitrine de la house music mondiale?
Une vitrine de la house music mondiale, peut-être pas, mais en tout cas, je voulais vraiment partager ce que moi j'avais en tête, comment je l'imaginais. donc j'ai pas la prétention de dire que
voilà. Mais c'est une belle vitrine en tous les cas, c'est vrai qu'elle est référente cette émission. Alors il faut préciser que ta 100e Magic Tape pardon, elle sort en édition spéciale, donc 3 heures de sélection house avec des sons des artistes qui viennent du monde entier. Il y a une dimension quand même très généreuse dans ton émission, très ouverte, qui est marquante chez toi. On la voit pas chez tous les artistes, et c'est essentiel aussi de pour ton travail créatif de te nourrir comme ça des autres, de leurs inspirations. Et
absolument, absolument. J'ai toujours fait ça, me nourrir et puis transformer et puis repartager pour recevoir et transmettre aussi. Et transmettre aux plus jeunes, parce que bon, je me retrouve souvent en studio avec des plus jeunes et je transmets ce que je sais.
Et on a beaucoup de chance dans l'électro, c'est que la jeune génération est très avide justement de transmission, ce qui n'est pas le cas de tous les genres musicaux. Alors, en plus de cette 100e, il y a un nouveau single, il s'appelle One Vibration. Alors, ce titre, c'est un hommage à la fête, à la danse. Le clip, c'est d'ailleurs un plan séquence autour d'une danseuse de l'Opéra de Paris. Il suinte le dance floor, il transpire la club culture. Alors, dans cette période complètement tourmentée, incroyable, est-ce que toi, tu te sens plutôt désarmé, orphelin de quelque chose? Il est né de ça, ce morceau?
Oui, il est important, mais quand je l'ai fait, j'imaginais avoir un public, en fait, simplement. Je l'ai fait dans un vol, c'était un vol Francfort-Mexico.
T'as fermé les yeux et tu t'imaginais que j'avais ton public en face de toi.
Oui, c'est ça, mais je fais souvent ça en fait, pour le moment. Je fais de la musique dans le studio, j'imagine qu'il y a 1000 personnes devant moi. Et donc, je suis content.
Et tu les imagines, tu sais que c'est une très bonne thérapie parce que tous les DJ que j'interviewe en ce moment me disent tous, c'est déroutant parce que je teste d'habitude tous mes morceaux devant mon public et là je ne sais plus comment faire pour justement les tester. Alors voilà, vous faites comme The Magician, les amis DJ qui nous écoutent, vous fermez les yeux et vous imaginez que le public est encore là. En attendant, on se retrouve avec The Magician ce soir qui fête en tous les cas le 100e volet de ses Magic Tapes. Et puis on va s'écouter tout de suite, et bien Joël Corry sur FG avec Eden Hart, et moi je te souhaite un très joyeux anniversaire pour cette tape.
Merci
beaucoup. En tous les cas, Stéphane,
à bientôt.
Décembre 2018, Antoine Baduel reçoit Michael Calfan.
Yes, mon ami Michael Calfan, et il est ce soir dans les studios de Radio FG pour un mini mix. Et oui, toujours plus présente et peut-être même plus vivace que jamais, la house française envahit de nouveau les clubs et Radio FG. Enfin bon, je pense qu'elle n'a jamais quitté FG non plus, mais enfin bon, il faut le dire, les productions se multiplient, de Mercer à Superfunk en passant par Purple, Disco, Machine. Et le dernier exemple en date, eh bien c'est le single de Michael Calfan, Sydney Song. Mon ami Michael Calfan qui est à nos côtés tout de suite pour une petite interview suivie d'un mini-mix. Rien que pour vous, Michael, bonsoir, bienvenue
bonsoir,
sur FG.
Bonsoir, comment ça va?
Ben écoute, ça va bien Michael, c'est toujours un plaisir d'abord de t'accueillir sur FG pour parler de tes productions. It's Wrong, il y a quelques temps, et puis de nouveau, hein, ce nouveau single Sydney Song. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouveauté et son titre?
Bah, tu sais, tous les 3-4 mois, j'essaie de sortir un nouveau titre. Comme je t'avais expliqué au tout début, quand on s'était vu pour mon premier On You, donc j'ai fait On You, Got You, It's Wrong, et maintenant c'est Sydney. Donc c'est une sorte de petite série house music, teintée French Touch, teintée un petit peu garage. Voilà, donc je me fais plaisir et je suis ravi d'être chez vous pour en parler. Voilà.
Alors pourquoi cette chanson de Sydney, du coup? Pourquoi le titre?
Alors en fait, c'est une chanteuse que j'ai rencontrée à... C'est une chanteuse que j'ai rencontrée à Londres qui s'appelle Sydney Jane. Et elle était là complètement par accident. Et on a fait la chanson très très vite tous les deux. Et en fait, elle incarnait tellement le morceau que j'avais l'impression que c'était un peu son hymne. Donc je l'ai appelé comme ça.
Moi je crois que c'était suite à une tournée en Australie. Tu sais, m'étais fait un film et tout. Un peu comme Môme, tu sais, qui avait produit son album dans un camping-car en Australie. Je me suis dit, c'est la même. Eh ben non, c'est en hommage à la chanteuse. Alors, Sydney Song, c'est évidemment un son house, ton univers, hein, Michael, ta marque de fabrique. On va d'ailleurs l'entendre dans ton mini-mix qui arrive dans quelques minutes. Toi qui commences maintenant à avoir une très très belle discographie, hein, Treasured Soul, Nobody Does It, On You par exemple. Est-ce que tu as le sentiment que ces sons trouvent plus d'écho sur certains territoires? Parce que c'est vrai que la house music, c'est aussi des pays, c'est une histoire, parmi lesquels la France, la Grande-Bretagne, New York également. Est-ce qu'il y a des scènes où cette musique est née qui sont plus réceptives à tes sons?
Bien sûr, et puis par exemple, l'Angleterre m'a toujours suivi. FG m'a aussi toujours suivi en France. Donc non, la France et l'Angleterre, c'est vraiment deux pays très importants pour moi. Aux États-Unis, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent pour cette musique-là. En Amérique du Sud aussi. Donc non, c'est des petits bouts par-ci par-là, mais je dirais quand même les plus gros territoires, c'est France et Angleterre.
Septembre 2021.
Antoine Baduel reçoit Mead.
Alors ce soir, on accueille l'un des DJ français qui a le plus marqué musicalement cette année et surtout cet été. On adore le son électro-solaire et ultra travaillé qu'il peut délivrer. Sa musique apporte en plus une certaine bonne humeur et son personnage tout autant. Lui, c'est Mead. C'est mon invité ce soir de la Piawer FG, juste avant de le retrouver en mix live. Et on a plusieurs questions à lui poser puisque c'est cette semaine spéciale French Touch qu'on vous propose dans la Piawer FG. Alors Mead, déjà mon ami, bonsoir, bienvenue à toi.
Bonsoir,
déjà
bonsoir.
C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Merci. Tu le sais, t'es chez toi ici, t'as pas mal tourné dans plein de villes, beaucoup de festivals cet été. Déjà j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ce retour de fête après plus d'un an, un an et demi de fin des lives. J'ai l'impression que tu t'es carrément bien rattrapé. Les sessions de rattrapage se sont plutôt, ont été multiples cet
été.
Tout
à fait, je me suis éclaté tout l'été. Je suis venu avec une nouvelle formule, surtout je continue à être DJ, j'ai fait le DJ tout l'été, mais maintenant j'ai aussi une formule live avec des musiciens.
Eh ouais.
Et ça a aussi fait la différence, c'est-à-dire que maintenant mes morceaux, je peux les chanter sur scène, je peux les jouer sur scène. On a vraiment parcouru la France avec cette nouvelle formule et c'était vraiment au plus proche du public, donc on a vraiment pu ressentir cette envie du public de faire la fête, quoi.
Alors du côté justement de ce public, t'as ressenti des sensations particulières, ce côté nouveau, et j'allais dire ce comeback, parce que récemment dans une interview tu parlais, je cite, d'une ambiance au jour le jour. C'est ça, tu sentais que les gens étaient un peu dans cet esprit là finalement, on en profite fait, un maximum parce que tout peut péter demain.
C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, on fait la fête comme si c'était la dernière fête de notre vie, quoi. Et j'ai vu ça, c'est à dire par exemple on a joué à Nancy ou sous une averse pas possible, en se disant les gens vont se barrer. Et en fait, pas du tout. Au contraire, ça les a rendus encore plus fous. Et puis, ils se sont dit, une fois qu'on est mouillé, on est mouillé. Et ils ont passé tout le festival trempé, mais à être heureux de réentendre de la musique.
Mais c'est vrai, quand tu recommences à cluber, tu dis, qu'est-ce que c'est bien de se faire marcher sur les pieds?
C'est
bien de se faire renverser une coupe de champagne sur le t-shirt, alors qu'avant, t'étais... tu vois ce que je veux dire? Tout
moi,
change.
Je t'avoue, même moi, en tant que public, même si je suis pas un énorme clubbeur en tant que public, je suis retourné en club et j'ai adoré ça.
Alors pour toi, c'est aussi une année particulière, hein, avec la sortie de l'album au printemps dernier de Born a Loser. Une sortie très remarquée, on en a beaucoup, beaucoup parlé sur FG. Est-ce que t'es satisfait des retours?
Ouais, je suis ravi. C'est au-delà de mes espérances, c'est-à-dire c'est devenu un album pour beaucoup de gens, un album qui a bercé leur déconfinement, si on doit se limiter à ça, mais qui est devenu l'album qu'ils adorent écouter, l'album de leur été, et de plus en plus des gens juste me disent que c'est leur album préféré du moment, et je peux pas être plus heureux que ça.
On revient aux différents lives que t'as fait cet été. Tu as pu, j'imagine, tester aussi les morceaux de ton album en club. On sait que c'est capital pour un DJ de pouvoir jouer aussi ses tracks devant un public. Ça doit être un bonheur.
Ça fait partie du métier, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça aussi. C'est-à-dire, en effet, le studio, c'est cool, sortir des morceaux, c'est génial. Mais à un moment, on a envie de les vivre en live, de voir le public réagir, et ça me manquait.
Et ça n'a pas été une frustration pour toi justement de sortir cet album et finalement de devoir attendre autant de temps avant de pouvoir tester les morceaux.
Par rapport à certains artistes qui ont attendu un an et demi, moi j'ai attendu finalement mon premier show, il était en juin, donc j'ai attendu 2 mois, donc ça va encore.
Alors soyons optimistes, hein, si on se projette, c'est quoi les prochains mois pour Mead? D'abord une date importante à La Cigale, c'est fin octobre, hein, je crois.
Ouais, c'est ça, 28 octobre à La Cigale. Malheureusement pour les auditeurs de Radio FG, c'est sold out, donc il n'y a plus de place. Mais bon.
Et comme on est hyper copains avec Mead,
ouais,
je pense qu'on aura quand même 2-3 petites places safe à faire gagner.
Il y aura une place pour Antoine dans le VIP pour qu'il puisse me regarder.
Alors on sait, t'as toujours touché à plusieurs domaines dans plein d'horizons différents. Est-ce que justement il y a de nouveaux projets dont tu pourrais nous parler sans... En spoilant, de toute façon.
Ouais, moi je peux toujours spoiler, mais pour l'instant, ça va être. Moi je bosse sur des nouveaux morceaux, tout simplement. J'aimerais bien faire une réédition de l'album, donc c'est-à-dire avec des morceaux en plus, des nouvelles collaborations, peut-être des remixes des morceaux. Et puis la tournée qui continue, grosse tournée aux États-Unis début 2022. Beaucoup de dates en France toujours, donc ça continue.
Janvier 2016, Antoine Baduel reçoit Sven Love.
20 ans de durée de vie pour un couple, c'est beaucoup, mais alors pour une soirée électro, c'est carrément un coup de force. Une vraie passion en tous les cas pour ses organisateurs et surtout ceux qui composent ce duo, en l'occurrence Sven Love et Greg Gauthier pour le duo Cheers. De l'Erotica à Pigalle en passant par le June à Paris, la Coupole ou encore le Queen, la soirée Cheers aura proclamé partout dans Paris son amour pour les sonorités house, le son soulful et le son garage. Tout cela méritait bien un anniversaire en grande pompe. Ce sera donc ce samedi au Badaboom à Paris dans le quartier de la Bastille. On en parle tout de suite avec Sven Love, la moitié du duo Cheers. C'est mon invité ce soir de l'Happy Hour. Bonsoir Sven, bienvenue à toi.
Bonsoir et merci pour cette très jolie introduction.
Bah écoute, avec grand plaisir Sven, tu le sais, t'es chez toi ici. Le duo Cheers a aussi commencé dès 1996 avec une émission mythique. C'était le dimanche après-midi, c'était je crois de 14h à 17h ou de 15h à 18h, oui, si ma mémoire ne flanche pas. Bon anniversaire en tous les cas à tous les deux, à Greg Gauthier, à toi-même Sven, et puis surtout bravo pour cette longévité, parce que cette soirée Cheers, rappelons-le, elle a aussi servi de fil rouge au film Eden, qu'il faut absolument avoir vu pour mieux connaître ou revoir les grands débuts de l'électro à Paris. Coup d'envoi donc en 96, et assez rapidement finalement ce phénomène, il est parti, c'est parti très très vite, hein. Vous avez très vite été, j'allais dire, les emblèmes ou les figures emblématiques du son Soul Food à Paris.
Oui, parce qu'on était un peu les seuls, peut-être à part Sylvie Châtaignier, deux trois DJ qui ont disparu entre temps, enfin pas tous, mais il y en a qui ont disparu. Donc on est arrivé sur un créneau où il y avait personne, et du coup, et l'électro c'était pas encore comme maintenant, c'était pas développé comme maintenant. Donc voilà, on a vite fait notre petite place, et ça a perduré quand même pas mal de temps.
Les Cheers avaient aussi ce site particulier, le film Eden d'ailleurs le montre bien, c'est que le public chantait les titres à l'unisson. Le garage contient d'ailleurs beaucoup de morceaux chantés, hein. On parlait nous-mêmes dans les couloirs de d'FG à l'époque des divas hurlantes. Il y avait une vraie communion autour de cette musique naissante. Ça a dû vous procurer en tant que DJ des jouissances infinies quand vous mixiez, de voir comme ça ce public faire presque un playback et interpréter les morceaux que vous jouiez.
Oui, c'est vrai, c'était une sensation assez particulière, et c'est d'ailleurs, on peut aussi se poser la question, ça manque peut-être un petit peu en ce moment, parce que après tout, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Il y a eu ça dans plein de soirées, notamment les soirées chez les Anglais, les premières soirées house et garage, les gens chantaient vraiment les morceaux, on n'a rien inventé, hein. Mais après ça s'est un peu perdu, nous ça s'est fait un peu naturellement en fait, les gens bah, parce qu'il y avait exclusivement des chansons, donc finalement, donc les gens, c'était assez évident qu'au bout d'un moment, à force de les entendre, des choses très, ce que les Anglais appellent sing-along, c'est des choses très faciles à chantonner, quoi. Même si on chante pas très bien, ce qui était le cas souvent. Et donc voilà, donc ça s'y prêtait bien, et c'est vrai qu'en tant que DJ, ça a été un vrai plaisir.
Et alors, c'est quoi votre plus grande fierté? Parce que finalement, quand on regarde tous les artistes que vous avez reçus, qui à l'époque étaient d'ailleurs des jeunes talents, qui ont été révélés très très peu de temps après, ou alors plus tardivement, je pense à des artistes comme Benjamin Diamond, par exemple, que vous receviez régulièrement. Quelle est votre plus grande fierté, l'artiste que vous rêviez d'avoir, que vous avez eu?
Il y en a plusieurs. Je pourrais pas dire une grande fierté. C'est vrai qu'on on est assez content d'avoir été un peu les premiers sur certains DJ comme Kerry Chandler, sur Vega, sur Frankie Felicia. Enfin, il y en avait plein en fait. Mais je pense pas que ça soit ce dont on soit le plus fier. Si on doit être fier de quelque chose, ce serait peut-être plutôt les soirées à l'époque de la Coupole, où je pense, je constate avec plaisir qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Je vois ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers nous, qui nous en reparlent, avec parfois beaucoup d'émotions, c'est d'ailleurs parfois un peu déroutant, et des couples même qui se sont formés, même mariés après, non c'est vrai en plus, voilà, donc ça ce serait peut-être plutôt ça dont on est fier, si le mot était un peu fort.
On a toujours su que Greg Gauthier avait un côté agence matrimoniale, voilà. De toute façon. Alors Sven, je me souviens que, bien sûr, vous aviez à l'époque une résidence, on le disait tout à l'heure, sur Radio FG, et les soirées Cheers étaient un rendez-vous du week-end qu'on ne ratait pas, notamment à la Coupole, dans le quartier de Montparnasse. C'était l'âge d'or de cette musique, des soirées soulful. Quel est le meilleur souvenir en matière de fête que tu gardes, justement, de cette scène à Paris, qui, finalement, allait bien au-delà de la musique, parce qu'elle avait un point d'orgue, c'était la Fashion Week. Enfin, tu vois, il y avait comme ça un contexte qui était très fort. C'est quoi, toi, les plus beaux souvenirs que tu gardes de cette époque?
Mais tu mentionnais la Coupole. Je pense que c'est vrai que nos plus belles années ont été à la Coupole. C'était vraiment le moment où cet esprit de communion dont tu as parlé tout à l'heure, on le ressentait le plus fortement. Et j'en ai vraiment trop, ce serait difficile d'en choisir un. Je garde un souvenir très ému quand même de la soirée, de la dernière soirée d'adieu, quoi, de la Coupole, où il y a quelques habitués, quelques fans qui pleuraient à la fin, quoi. C'est pour te dire le truc. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres.
Mais... Et alors, justement, tu portes quel regard, toi, aujourd'hui, sur le clubbing, sur cette club culture, des lieux qui sont beaucoup plus grands, qui brassent des centaines de milliers de personnes quand on parle de festivals? Tu te reconnais, toi, dans ces lieux? Ça t'arrive de t'y produire?
Des grands festivals, non, j'ai un point de vue assez positif là-dessus, parce que mine de rien, là, il y a quand même, il y a beaucoup plus de monde qui sort, il y a beaucoup plus de soirées, donc il y a plus de choix,
Donc globalement, je pense que c'est quand même mieux que quand moi j'ai commencé à sortir, par exemple. Après, pour la musique, non, la musique je retrouve pas totalement ou de manière assez rare. Mais il y a quand même une qualité de la musique, mais ça manque peut-être un peu de diversité. Voilà.
Et alors, justement, parlons de la scène soulful, garage. Est-ce que tu as le sentiment que il y a un retour aujourd'hui de aussi bien avec des voix mythiques, hein, je pense à des Ultra Naté, des Barbara Tucker, des Dajai, des artistes comme ça qui ont été très emblématiques. Est-ce que tu as le sentiment que ce sont des artistes qui peuvent revenir sur le devant de la scène ou qui au contraire préparent vraiment, et tu le sais, des choses intéressantes? Tu sens un retour là de cette sonorité après la grande vague Deep House?
Alors par exemple, toutes ces chanteuses, je saurais pas dire si c'est des chanteuses qui vont encore faire des grands titres comme elles ont pu faire dans les années 90 ou encore au début des années 2000. Par contre, c'est des chanteuses qui il y a encore un vrai intérêt pour les entendre chanter dans des clubs ou dans des soirées, parce que je sais que Barbara Tucker par exemple tourne énormément et qu'elle d'ailleurs c'est
surtout
son...
à Ibiza l'été, hein.
Ouais, elle est garage, hein. Il y a quand même, enfin il y a encore une scène vraiment garage. Donc pour ces chanteurs, je sais pas, mais globalement c'est vrai que je reste prudent, mais je sens qu'il y a effectivement un vrai retour d'intérêt pour cette musique, et notamment chez les très jeunes. J'ai mixé récemment à Nantes par exemple pour une soirée garage qui s'appelait God Save Garage, et j'étais assez surpris que le promoteur qui m'a booké et qui jouait des morceaux tout à fait dans l'esprit de Cheers,
c'est-à-dire des classiques ou alors au contraire des nouveautés?
Non, des classiques mélangés avec quelques nouveautés, mais beaucoup de classiques. Je pense qu'il a été initié quand même, parce que sinon ce serait un peu incompréhensible. Mais en tout cas bref, il avait 19 ans. Enfin, il a 19 ans.
Et ça, ça fait plaisir. Et on peut faire le parallèle avec la vague Deep House, hein. On le disait tout à l'heure hors antenne, mais finalement, sur la vague Deep, quand on regarde aujourd'hui les artistes, aussi bien français qu'européens, qui se sont illustrés, les Félixiennes, les Klingon, les Jabberwocky, les Feder, tout ça, c'est des artistes qui avaient entre 18 et 25 ans quand ils ont commencé à faire leur premier track et se faire repérer. Sven, pour finir évidemment, au-delà de cette soirée anniversaire, une question s'impose. Je ne sais pas si les auditeurs l'attendent tous autant que nous, mais à quand une nouvelle résidence de Cheers dans un club parisien ou un concept justement qui irait de ville en ville?
Alors, je pense que Cheers, c'est pas exclu qu'on en fasse d'autres en dehors de Paris, mais à Paris ça restera vraiment événementiel. On y tient avec Greg, c'est-à-dire 2 à 3 fois par an par exemple au Badaboum. On va voir comment ça se passe samedi, mais on veut garder ce côté-là parce que voilà, c'est quand même important de préserver ce côté événement. Par ailleurs, moi je suis en train de monter une nouvelle soirée dans un lieu qui va ouvrir fin février, début du mois de mars, qui a l'air très excitant, qui s'appelle la Maison Sage. C'est à Place de la République, donc c'est très très bien situé. Ils ont fait beaucoup de travaux d'insonorisation et ils veulent faire une sorte de lieu de vie. Voilà, c'est des gens intelligents et malins. Donc,
et ben, ça sera le plaisir en tous les cas de t'accueillir pour que tu nous présentes tout ça. Ça sera vraiment un plaisir. En tous les cas, Save the Date. Ça sera samedi soir, les 20 ans de la soirée Cheers, au service d'une scène house et garage qui aura su nous donner tant de hits que de nuits blanches. L'anniversaire, ce sera évidemment avec Sven Love et Greg Gauthier au Badaboum, rue des Taillandiers à Paris dans le 11e. Merci Sven.
Novembre 2020. Antoine Baduel reçoit Médusa.
Il y a quelques jours sortait le nouveau single de Médusa, il s'appelle Paradise. Aux commandes, Médusa, c'est un trio italien, l'esthétique toujours superbement travaillée, mais aussi Dermot Kennedy, un Irlandais qui avait rencontré le succès avec son titre Power of Me, un titre d'ailleurs brillamment remixé par Médusa. Une fois encore, Médusa nous livre une parfaite vision de la house music et même de la tech house. Matt de Médusa est mon invité ce soir. Matt, bonsoir my friend, how you doing?
Bonsoir, how are you?
I'm very good, Matt, thank you. How are you doing?
I'm good. I'm working right now in the studio on new music, so I'm having fun with the guys here.
Alors, je sais que votre trio Médusa aime la house music sous toutes ses esthétiques, hein, underground, mais aussi vous faites toujours en sorte de vous ouvrir pour que le grand public puisse savourer votre musique. Est-ce que Paradise, cette histoire d'amour, est faite pour ça justement, pour toucher à la fois les initiés, mais aussi le plus grand nombre et le plus de monde possible? I know you like your house music, let's say underground, but you always manage to open it up to a wider audience. With Is Paradise, this love story, made for this to reach more people?
Yeah, as you said, we like to bring underground to the radio daytime and to the pop music that is not usual at the moment. Luckily, we have this opportunity. The love story on the lyrics is more about the situation we are living now in the world. So, you know, talking about the distance we have between you and something that you think is your personal paradise. I mean, it can be everything, like a person, girlfriend, boyfriend, an animal, or just a place that makes you feel special. So the meaning of the lyric is just, I know we are distant from each other, but just close your eyes and think about me or a place or something else that makes you feel special, and that will be there and I will be with you soon.
Alors les voix ont toujours beaucoup d'importance hein, dans vos titres. Elles donnent souvent une gravité, un côté envoûtant. Comment est-ce que vous bossez ça? Vous faites des castings de chanteurs, de chanteuses? Ou alors vous concevez vos titres en sachant déjà quel genre de voix ira dessus? Comment vous bossez? Vocals are always important in your tracks. I mean, they're determining the track. They often give a seriousness, a spellbinding dimension, I would say. How do you work on this? Do you cast singers? Do you conceive your tracks knowing which kind of voice will go with them?
Is a crucial thing for us vocally in every track we work. We usually, when we're in the studio, work on all the stuff around the track. I mean, like backing track, we write the lyrics, we write the melody for the vocal top line. So we close the entire project, and then we search for, we look for a feature, and we discuss with management or label. And in this case, we found Dermot because we remixed him last year with Power Over Me, and we noticed that his voice was fitting perfect on our track. So we decided, and luckily we are under the same label in the UK, so was not too hard, so hard to get him on the track. And he loved immediately the idea of the track and wanted to fix some stuff in the verse. But everything was already complete and he just needed to sing.
Alors musicalement du coup, parce que votre musique est idéale pour les clubs, est-ce que vous trouvez toujours l'inspiration dans la période actuelle? Je veux dire, est-ce que ça vous donne envie d'aller vers d'autres sonorités par exemple? And musically, because your music is great for clubs and I would say dedicated to clubs, do you still find inspiration lately or have this time